Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment la dyslexie peut être une force en leadership? Un texte de Sarah Raimi, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir. À la suite de la récente victoire électorale de Donald Trump, les discussions sur la diversité et l'inclusion se sont intensifiées en Amérique du Nord. Ce changement politique souligne la nécessité pour les organisations de réaffirmer leur engagement envers l'inclusion de perspectives diverses, y compris la neurodiversité. Comptent en commun Whoopi Goldberg, Henry Ford, Muhammad Ali, Steven Spielberg et Agatha Christie? Ils ne semblent pas avoir grand-chose en commun, mais ils partagent tous un point. Ils sont atteints de dyslexie. Il s'agit du trouble d'apprentissage le plus courant, souvent mal compris et sous-estimé dans les environnements professionnels. Selon l'Université de Cambridge, jusqu'à 20 % de la population est atteinte de dyslexie. Certains croient à tort que les personnes ayant des troubles d'apprentissage sont plus lentes ou moins intelligentes que celles qui n'en ont pas, mais ce n'est pas vrai. Selon l'Association des troubles d'apprentissage des États-Unis, les troubles d'apprentissage n'altèrent pas l'intelligence d'une personne. Ils représentent simplement une façon différente de traiter l'information. Cela permet aux personnes ayant des troubles d'apprentissage de percevoir le monde différemment, ce qui peut être un atout pour les organisations. Les personnes dyslexiques peuvent être un avantage, surtout dans les rôles de leadership, grâce à leurs compétences uniques en résolution de problèmes, en innovation et en créativité. La dyslexie est souvent associée à des difficultés en lecture et en écriture, mais elle offre également des forces précieuses en leadership. Les personnes dyslexiques excellent souvent dans la pensée globale, la résolution de problèmes et l'innovation créative. Elles sortent naturellement des sentiers battus, ce qui leur permet de résoudre des problèmes et de trouver des solutions créatives que d'autres pourraient négliger. Une étude de l'Université de Cambridge a révélé que les personnes atteintes de dyslexie excellent souvent dans les domaines qui requièrent une pensée créative et une résolution de problèmes complexes. Pour compenser leurs difficultés en lecture et en écriture, leur cerveau renforce d'autres fonctions cognitives, comme le raisonnement spatial et la pensée interconnectée. Ces capacités peuvent être avantageuses pour naviguer dans les complexités et les incertitudes du leadership. De nombreux leaders à succès sont atteints de dyslexie. Richard Branson, le fondateur du Virgin Group, parle ouvertement de sa dyslexie et de la façon dont elle l'a aidé à voir la situation dans son ensemble, à déléguer efficacement et à penser de manière créative. De même, Charles Schwab, le fondateur de la société Charles Schwab Corporation, attribue à la dyslexie son approche innovante des affaires et du leadership. Un autre exemple est Paul Orfalea, le fondateur de Kinko's, qui crédite sa dyslexie pour son esprit d'innovation, son accent sur le service à la clientèle et l'autonomisation des employés, ce qui a conduit au succès de son entreprise. Ces leaders et bien d'autres sont des exemples de la façon dont la dyslexie peut favoriser des compétences qui font un excellent leader, comme la résilience, la créativité, l'innovation et la capacité à envisager les défis sous divers angles pour trouver des solutions uniques. Les organisations peuvent bénéficier de la part des personnes dyslexiques en créant un environnement de travail inclusif qui valorise la diversité. Cela peut se faire par le biais de programmes de formation et de sensibilisation des employés aux forces associées à la dyslexie, ainsi que par la lutte contre les idées fausses et les stéréotypes. Elles peuvent offrir des occasions de leadership aux employés concernés qui nécessitent créativité, innovation et résolution de problèmes. Une autre stratégie consiste à fournir des outils et des technologies de soutien, comme des logiciels de reconnaissance vocale et des outils de pensée visuelle, pour aider les personnes dyslexiques à gérer leurs défis. Enfin, les organisations peuvent encourager le mentorat et les modèles pour offrir aux employés dyslexiques des conseils et de l'inspiration de la part de leaders à succès. Toutes ces stratégies peuvent aider à soutenir les employés dyslexiques tout en tirant parti de leurs forces et en stimulant l'innovation et la croissance organisationnelle. La dyslexie ne devrait pas être perçue comme un obstacle ou un désavantage, mais plutôt comme un atout unique pouvant contribuer à un leadership efficace. En conclusion, la dyslexie peut être une force en leadership et contribuer à des organisations plus innovantes et dynamiques. Il est dans l'intérêt des entreprises d'optimiser les talents de leurs employés et de reconnaître la valeur que les leaders neurodiversifiés apportent aux organisations. C'était « Comment la dyslexie peut être une force en leadership », un texte de Sarah Raimi, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir.
L'équité menstruelle au menu chez McDo, un texte de Nathaël Morissette, paru le 31 décembre 2024 dans La Presse. Est-ce que tu connais le concept d'équité menstruelle? Complètement désarçonné à la suite d'une discussion avec une jeune employée qui s'est retrouvée un peu désemparée lorsque ses règles sont survenues plus tôt que prévu, en plein quart de travail, une propriétaire de 9 restaurants McDonald's a décidé de fournir gratuitement des produits menstruels à ses équipes. Elle me parlait d'équité menstruelle. J'étais dans le McCafé, il était 11h30. Ça m'a déstabilisée complètement, raconte Audrey Bernard, au cours d'une entrevue téléphonique. Celle qui dirige sur la rive sud de Montréal plusieurs établissements de la populaire chaîne de restauration rapide n'aurait jamais pensé avoir pareille discussion avec une jeune employée âgée de 17 ans. Dans ma tête, je me suis dit, voyons, ce n'est pas à moi comme employeur de payer des tampons et des serviettes, confie-t-elle. Madame Bernard, dont l'initiative a d'abord fait l'objet d'un article dans le journal La Relève, a tout de même décidé de faire ses devoirs. Je me suis éduquée. Est-ce que c'est un gros investissement? Est-ce qu'il va y avoir de l'abus? J'avais beaucoup de doutes et de craintes. La restauratrice âgée de 42 ans a finalement décidé de tenter le coup. La mise en place d'une nouvelle réglementation fédérale l'a convaincue d'aller de l'avant. Depuis le 15 décembre 2023, des modifications au Code canadien du travail obligent les entreprises sous réglementation fédérale à offrir gratuitement tampons et serviettes à leurs employés. Madame Bernard souligne « Je pense que c'est quelque chose qui va finir par s'appliquer à l'ensemble des entreprises. J'ai juste voulu être avant-gardiste, être en avant de la parade. » Des présentoirs de tampons et de serviettes hygiéniques ont été mis à la disposition des employés de tous ces restaurants depuis le début de l'été. Finalement, il n'y a pas eu d'abus du tout, constate Madame Bernard. Mes présentoirs sont encore pleins. Les gens les utilisent s'ils en ont besoin, si c'est urgent. Cette mesure ne lui a pas non plus coûté une fortune, assure-t-elle. Elle a payé 100 $ pour chaque présentoir rempli et elle doit débourser chaque mois entre 7 et 9 $ pour renflouer les stocks. Des jeunes décomplexés. Et comment a réagi la jeune employée qui a été, en quelque sorte, l'instigatrice de cette initiative? Je l'ai remerciée de m'avoir fait part de son histoire. Elle aussi m'a remerciée d'avoir été à l'écoute et ouverte d'esprit. J'ai 42 ans, elle en a 17. Ce n'est pas la même génération. Mes priorités et mes besoins ne sont clairement pas les mêmes que les siens. L'adolescente qui a fait réfléchir Audrey Bernard ne semble pas être la seule à être interpellée par le concept d'équité menstruelle qui peut se définir comme un accès gratuit aux produits menstruels afin de réduire les iniquités de genre. Roxane Champagne-Duval, fondatrice de l'entreprise Aléa Protection, qui vend des tampons et serviettes à plusieurs organisations comme Lambert, la Banque de développement du Canada, BDC, ainsi que des bureaux gouvernementaux, remarque que ce sont de plus en plus de jeunes employés qui l'interpellent. Ils lui demandent de contacter leur patron. Récemment, l'entreprise est devenue le partenaire officiel du programme féminin de l'Académie du CF Montréal, assurant ainsi aux jeunes joueuses de soccer un accès à des produits menstruels. L'idée fait même son chemin jusque sur les campus universitaires. Justine, une étudiante âgée de 21 ans, qui préfère taire son nom de famille ainsi que celui de son université pour ne pas nuire aux chances de réussite de son projet, a également entrepris des démarches pour que ce genre de produit soit offert dans 7 salles de toilettes de son établissement. L'équité des genres, la précarité étudiante, la réduction des tabous sont autant d'arguments qu'elle a fait valoir pour vendre son projet qui, selon ses calculs, coûterait 4 000 $ à l'université pour la première année, ce qui inclurait l'installation des distributeurs et leur remplissage. Ça permet de donner une accessibilité. Plus besoin de se mettre du papier de toilette dans le fond de la bobette entre deux cours. Pour le moment, on lui a proposé de faire une demande de bourse pour financer son projet. Reste maintenant à voir si, comme la jeune employée de McDonald's, elle parviendra, elle aussi, à faire bouger les choses. C'était « L'équité menstruelle au menu chez McDo », un texte de Nathaël Morissette, paru le 31 décembre 2024 dans La Presse.
Le papillon tigré du Canada, un rayon de soleil dans le jardin. Un texte de Jean-François Desroches paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne. Jean-François Desroches est biologiste et spécialiste en ichtyologie, en herpétologie et de certains groupes d'invertébrés. Avec sa conjointe Myriam Tanguay, technicienne en bioécologie, il a créé la chaîne YouTube Folle Bestiole, laquelle présente des vidéos sur les petits animaux du Québec et d'ailleurs. Le passage dans le jardin d'un papillon tigré du Canada est un véritable ravissement. De grande taille, ce majestueux lépidoptère diurne de couleur jaune et noire atteint une envergure de 7,9 cm. Bonne nouvelle, il est assez abondant, vole lentement et se laisse facilement observer. Un œil averti remarquera qu'il arbore un peu de rouge et de bleu sur le pourtour des ailes postérieures, toutes deux munies d'un très visible prolongement nommé queue. Le mâle et la femelle sont identiques. Il est possible de contempler le vol des adultes du papillon tigré du Canada à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Cette espèce ne produit qu'une génération par année. Le nectar attractif. Ce qui attire au jardin le papillon tigré du Canada, c'est d'abord le nectar des fleurs. Dans le but de l'inviter chez soi, il faut lui offrir des plantes qu'il aime butiner et, idéalement, être situé à proximité de milieux boisés. C'est que ce papillon, s'il n'hésite pas à explorer divers habitats, est avant tout une espèce forestière. Il affectionne particulièrement le nectar des lilas, de même que des fleurs champêtres telles les épervières, les marguerites, les trèfles et les verges d'or. À la manière des autres papillons diurnes, il puise sa nourriture à l'aide de sa longue langue qui s'enroule et se déroule comme une trompe. On le voit fréquemment sur un chemin forestier, en groupe autour d'une flaque d'urine ou d'un tas d'excréments desquels il extrait le sel nécessaire à son métabolisme. Une chenille remarquable. De couleur verte, la chenille du papillon tigré porte sur son thorax bombé deux taches ou ocelles ressemblant à des yeux. Peu avant le stade de nymphe, elle devient brunâtre. Elle se nourrit des feuilles de diverses espèces d'arbres et d'arbustes, parmi lesquelles plusieurs sont communes dans les cours et jardins, en outre des peupliers faux-trembles et baumiers, ainsi que du bouleau blanc. Elle affectionne les différentes essences de saule, d'aune et de frêne. Les feuilles des lilas et des pommiers lui conviennent également. Découvrez-la dans votre parterre. C'était Le papillon tigré du Canada, un rayon de soleil dans le jardin, un texte de Jean-François Desroches, paru à l'été 2023 dans la revue Nature sauvage à la campagne.
L'État-providence, de mal en pis. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000. Le Devoir, dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, peut-on parler de la crise de ou dans l'État-providence? On le sait, on l'a dit, on le répète. Une fois le Québec distillé et concentré au pur sucre, il ne reste finalement qu'un immense hôpital. Avec une enveloppe de près de 62 milliards, la santé a représenté en 2024 environ 42 % des dépenses de tous les portefeuilles ministériels québécois. Les budgets de ce seul poste ont doublé en 6 ans. Des projections faites en décembre 2013 dans un rapport du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, mentionnaient que, pour maintenir constante la part des dépenses en santé d'ici 2030, il faudrait augmenter de 60 % tous les impôts et toutes les taxes du gouvernement du Québec, et ce, en supposant que l'assiette fiscale n'en soit pas affectée. Le ministre titulaire du secteur, Christian Dubé, a déclaré il y a quelques semaines que ce fardeau budgétaire était devenu insoutenable. Sans compter qu'un Québécois sur quatre n'a pas accès à un médecin de famille et que certains établissements hospitaliers ont des allures de cliniques du tiers-monde. Le constat vaut pour bien d'autres secteurs sous perfusion étatique. L'éducation, les services sociaux, la protection de la jeunesse, les transports ou la culture. Bref, l'hôpital malade voisine une école décrépite, une autoroute trouée, des itinérants, etc. Ces perspectives enténébrées signalent-elles au total une crise de l'État-providence? Il y a un mythe du retrait de l'État dans notre société, répond Stéphane Paquin, professeur à l'École nationale d'administration publique et titulaire d'une chaire Jarilowski sur la confiance et le leadership politique. Il y a une perception très forte d'une partie de la population que l'État-providence se désengage, alors que les statistiques de base indiquent au contraire une augmentation très importante des engagements, y compris depuis les années 1990. Malgré les efforts pour rééquilibrer les finances publiques, par exemple, on voit des augmentations des dépenses de ce qu'on considère être l'État-providence. Un univers en expansion. Le behemoth s'avère difficile à cerner. Une politique sociale vise à protéger les individus et les familles des risques sociaux importants liés à la pauvreté, à l'accès au logement, à la retraite, par exemple, propose le spécialiste. Cette idée de l'assurance mutuelle à l'échelle nationale touche au cœur du système. L'État-providence, développé dans le contexte de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, pour prendre le relais des systèmes compassionnels religieux, se charge des problèmes sociaux et des malchances individuelles qui se multiplient et s'accumulent à l'infini. Au Québec, les grandes fondations de la providence étatique remontent aux années 1960 et 1970 avec une progression exponentielle encore et encore depuis le début du 21e siècle. On le voit par exemple avec la création récente de l'assurance médicaments, des congés parentaux, du système des garderies, etc. À elle seule, ces nouvelles charges monopolisent des milliards supplémentaires chaque année. L'accumulation finit par créer une crise de financement de la machine. On le voit bien dans certains pays comme la France. La dette publique dépasse 100 % de son PIB et les budgets, tous déficitaires, en rajoutent depuis des décennies. Les défis budgétaires sont assurément importants, dit le professeur Paquin, en citant encore celui de l'intégration des nouveaux arrivants. Il faut prendre la question des finances publiques au sérieux, même si je la trouve moins dramatique ici. Les dépenses sociales du Canada totalisaient 24,9 % du PIB en 2022. Le Canada à la traîne. Les données internationales sur le long terme montrent en fait la même progression du soutien public presque partout. La moyenne de l'OCDE des dépenses sociales totalisait 1 % du produit intérieur brut, PIB, en 1900, 7 % en 1960, 18 % en 2000 et maintenant 21 %. La comparaison entre les pays riches établit cependant que le Canada se situe à la traîne de la tendance internationale. Les dépenses canadiennes sociales totalisaient seulement 17 % du PIB en 2016, soit moins qu'aux États-Unis, 19 %, loin de la Suède, 27 %, et de la France, 32 %, championne du lot. Encore une fois, sans les dépenses en éducation. La coûteuse pandémie a chamboulé les places. En 2022, le seuil a été haussé au quart, 24,9 % du PIB au Canada, plaçant le pays au 10e rang pour les dépenses sociales, derrière le Japon, mais juste devant le Portugal, la Grèce et la Suède, 23,7 %. Les États-Unis en étaient à 22,7 %. La France et l'Italie passent la barre des 30 %. La moyenne reste à 21 %. Seulement, il y a Canada et Canada. Les provinces de l'Ouest ont un État-providence beaucoup moins développé que le Québec, finalement plus proche d'un certain modèle européen. L'assurance médicaments ou les garderies subventionnées promises par le fédéral sont déjà bien implantées au Québec, fait remarquer le professeur. Vous écoutez l'État-providence de Malampy, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir. Captation corporatiste. La manière de fonctionner du système pose d'autres problèmes profonds. Ici comme ailleurs, l'État maintient l'habitude de distribuer des sommes directement aux individus, par exemple avec les allocations familiales, déjà vieilles de plus d'un siècle. Est-ce la meilleure manière de lutter contre la pauvreté, se demande M. Paquin. Il ajoute que les États rebutent à s'engager dans de nouveaux programmes pérennes et préfèrent envoyer des chèques ponctuellement, comme on l'a vu sous la CAQ, en Ontario, et encore récemment avec la tentative fédérale repoussée. La remarque sur l'efficacité vaut en fait pour l'ensemble du système. Les rapports du vérificateur général exposent continuellement des dysfonctionnements de la machine. Malgré les milliards investis chaque année, le Québec a le système scolaire le plus inéquitable au pays. Il faut aussi considérer les écarts entre les assurances et les redistributions sociales. La manne étatique ne profite pas équitablement à tous, et certaines professions bénéficient largement des retombées de la grande mutualisation providentielle. Les médecins offre l'exemple par excellence. Après une formation financée publiquement, ces employés de l'État jouissent de salaires 2, 3, voire 10 fois plus élevés que celui du Premier ministre, tout en pouvant s'incorporer pour payer moins d'impôts. On peut le dire autrement. Les quelques 52 000 Québécois, formant le 1 % des plus riches, gagnent 275 000 $ et plus, par année. Et c'est bien le cas des 22 000 médecins, qui reçoivent en fait en moyenne beaucoup plus. Par comparaison, un professeur d'université, lui aussi sous perfusion étatique, lui aussi hautement diplômé, gagnait en moyenne 133 000 $ au Québec en 2020-2021. Trump, made in Canada. L'accumulation de ces problèmes dans l'État-providence finit-elle par définir une crise de l'État-providence? À partir de quand la quantité se change-t-elle en qualité? En tout cas, la crise de légitimité pourrait s'amplifier avec la révolution qui semble se préparer chez nos voisins du Sud sous le nouveau gouvernement Trump. Le président républicain désigné pense pouvoir réduire les dépenses publiques de 2 000 milliards par année et éliminer un poste de fonctionnaire sur trois. La grande cure sera-t-elle imitée ici par le prochain gouvernement fédéral, peut-être conservateur? Ce qui est intéressant quand on suit le chef conservateur Pierre Poilievre, c'est moins ce qu'il dit que ce qu'il ne dit pas, dit le professeur Paquin. On peut penser que, pour réduire le déficit fédéral, un gouvernement conservateur va couper dans les transferts aux provinces, comme dans les années 1990. Reste à voir comment la population réagirait à une nouvelle passe dure et à des attaques contre l'État-providence qui a continué à se développer depuis le début du siècle. Le professeur de McGill, Olivier Jacques, a identifié, sondage des 50 dernières années à l'appui, une forte adhésion des Québécois à leur redistribution et à l'intervention de l'État, d'ailleurs plus forte que dans le reste du pays. Cette spécificité québécoise s'explique par une plus faible polarisation entre les riches et les pauvres et entre les électeurs des différents partis sur les questions redistributives, résumait-il dans Le Devoir à l'été 2024. Il y a une exceptionnalité québécoise, poursuit Stéphane Paquin. Les Québécois sont très attachés à l'État-providence. Un parti qui se lancerait en campagne électorale en promettant de réduire l'État à la Trump de façon massive, à l'heure actuelle, ne passerait probablement pas. Il y a d'ailleurs des avantages pour une société à viser plus d'égalité entre ses membres. Dans les sociétés plus égalitaires, les gens ont par exemple tendance à être en meilleure santé. C'était l'État-providence de Malampy, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir.